Disons,
divisé,
on
parce que
peut
quand elle est faite, elle
on la
est assez
différencie
claire.
pas mal, ouais. Donc, il y a ça, mais oui, au Québec, c'est vraiment développé. Mais regarde, tu vois, il y a ces événements-là quand même qui permettent, ben, qui me donnent espoir,
Ouais.
qui montrent que oui, il y a quand même un appétit chez les Québécois pour la discussion, le débat. Et d'ailleurs, on a eu quelques accrochages quand même sur scène.
Ah oui.
Oui, mais très poli, là. Mais vous connaissez un peu mon tempérament, mais ça a été amusant quand même de s'accrocher un peu avec. Moi, en conférence, je suis comme ça, je suis pas là pour être d'accord non plus complètement. C'est pour ça que je pense qu'on m'invite un peu. Pas que je fous la merde, là. Mais des fois un peu.
Ouais, mais je me souviens d'une entrevue entre Anne-Marie Dussault et Marine Le Pen. Je pense que Mme Dussault s'attendait pas du tout à ça, là, à
Ils ont la
recevoir quelqu'un.
répartie.
Ben oui, vraiment.
Ils ont plus de
Puis,
répartie.
si jamais tu as une mauvaise idée derrière la tête puis tu veux faire passer ton invité comme étant une dictatrice, ben ça se peut que tu te fasses reprendre assez
Faut se
facilement.
préparer.
Ça a été le cas pour ce qui est d'Anne-Marie Dussault. Hey, les attentats sur Donald Trump, c'est capoté ce que j'entends. J'écoutais la radio de Montréal hier. J'écoutais des podcasts à savoir qu'est-ce qui s'était dit dans les dernières heures sur les attentats. Tu sais, je veux dire, moi, que ce soit Joe Biden, que ce soit Kamala Harris, que ce soit Trump qui est victime d'attentats, à mes yeux, à moi, ça devrait pas arriver, là. T'sais, on
Non, non, non.
tente d'essayer de nuire à de futurs candidats, ben, à des candidats, en fait, qui veulent prétendre être un président ou une présidente. Dans ce cas-ci, Trump, ça fait deux fois. La première fois, les services secrets ont vraiment mal paru. J'étais persuadé qu'on avait augmenté la sécurité avec le Secret Service. Puis visiblement, ça ne semble pas s'être fait, là.
Non.
Là,
C'est louche.
on s'est approché à 300 verges, donc 900 pieds de Donald Trump. Puis heureusement, c'est un coucou, là, puis il n'a pas réussi à tirer, il n'a pas réussi à
Après,
l'atteindre. Mais tu te dis, voyons donc, ça sert à qui, là, de mettre la vie de ce candidat-là en danger?
ouais, puis mais remarque, je me faisais une réflexion récemment. J'étais à Mexico, puis il y avait un grand rassemblement de la droite latino-américaine. Et je regardais un peu la sécurité à Mexico. Puis Dieu sait qu'à Mexico, il y a de la sécurité, là. Puis il y avait Tulsi Gabbard, je ne sais pas si vous la connaissez, là, la fameuse ex-démocrate devenue. Bon, on la voit comme une femme présidentielle dans les prochaines années, très, très, extrêmement populaire, là, qui s'est ralliée à Donald Trump récemment, donc une américaine. Et je voyais un peu comment je pouvais l'approcher facilement. Bon, moi, il faut dire que j'ai une passe VIP, on s'entend. Mais c'est que, tu sais, on voit quand même les services de sécurité ne peuvent qu'être infaillibles. Je ne sais pas, moi, autour de Trump, là, si, y a encore des failles qui sont volontaires ou non. Mais, tu sais, faire de la politique, c'est risqué. C'est-à-dire, même, je l'ai vu au Mexique, le président, là, López Obrador, maintenant, je l'ai vu en avril dernier, il était venu à Oaxaca, il sortait du palais présidentiel, et là, il a décidé tout d'un coup qu'il prenait un bain de foule, il y avait des snipers sur les toits, mais, tu sais, n'importe qui, honnêtement, qui avait un couteau, dont moi, pas moi, là, mais vous comprenez, même qui est venu, on pouvait l'approcher. Donc, les politiciens prennent des risques, souvent, tu sais. Donc, je pense que Donald Trump doit être conscient quand même de certains, que certains rallyes restent risqués, surtout après la première tentative. Mais sinon, je peux pas. Je ne sais pas, moi, que si la sécurité est suffisante, ben, elle apparaît insuffisante. Mais de se prêter à ces rallyes-là, c'est sans doute quand même prêter flanc à, disons, à ce genre d'attaque-là.
Parce que
Qu'est-ce que t'en penses?
j'ai vu les deux extrêmes sur les réseaux sociaux. D'un côté, il y a des gens qui disent ben, Trump fait par exprès, ce qu'il veut, c'est encore se faire tirer pour encore attirer l'attention. Puis de l'autre côté, c'est toute la gang de gauche qui veulent que Donald Trump se fasse tirer. Moi, je me situe pas mal plus au centre, là.
Ouais.
C'est-à-dire, je pense qu'il y a laxisme. Souvent, on a un biais de proportionnalité, hein, dans l'attentat de JFK, Pascal. On ne pouvait pas croire que c'était un loup solitaire qui avait fait ça parce qu'il s'en est pris à John F. Kennedy, puis il l'a tué. Puis là, quand on s'est aperçu que c'était un loup solitaire qui avait fait ça de son propre chef, on a essayé de créer une machination autour de Lee Harvey Oswald en disant ben, il était peut-être dans les services de renseignement, c'était peut-être un agent de la CIA. On a sorti plein d'histoires parce que le biais de proportionnalité dit ça se peut pas que ce gars-là, ce nobody-là, ait réussi à faire une
C'est
chose
trop gros
si
pour. Ouais,
grosse.
c'est ça.
Ou on nous a mal vendu le FBI à travers de nombreuses années, ou encore la profession a changé en se disant ben, on a moins ces acteurs-là qui étaient prêts à tout dans leur métier et qui étaient formés dans une rigueur extrême, comme on voyait dans bien des corps de métier auparavant. Même, je veux dire, les militaires, ça a changé, que ce
Oui,
soit au
c'est vrai, il n'y a
Canada
pas
ou
la
pas.
même discipline.
C'est
Il y a
plus
des
la même
métiers qui se
chose, là,
perdent.
parce qu'il y a des mœurs aussi qui changent, l'éthique qui change, puis c'est correct, là, on a des avancées dans. Mais est-ce qu'on a perdu cette frange-là un petit peu plus extrême dans la qualification
Ça, je
d'un
le
métier
croirais
qui est
certainement.
aussi intense? Puis là où je me questionne aussi, si ce n'est pas de ça, c'est-tu un genre de Donald Trump qui aime bien faire ses choses à sa manière, qui ne souhaite pas avoir une sécurité comme un président américain a normalement autour de lui parce qu'il n'y en a jamais eu de ce type. Puis c'est un gars quand même qui aime faire les affaires à sa manière, imposer un peu sa façon de voir les choses.
Il doit avoir son propre corps de sécurité. Il doit combiner les deux. Comment ça fonctionne?
Donald Trump va être président jusqu'à sa mort. Donc, il y a toujours une garde du Secret Service avec lui.
Okay, ouais.
Donc, il y a ça. Mais là, comme c'est un candidat à la présidentielle, le Secret Service il a été augmenté.
Mais personnel, lui-même, à Donald Trump...
Il a sa propre garde.
Il y a les deux?
Oui.
Mais la question est intéressante. Tu sais, la question de l'erreur est humaine. C'est-à-dire, on l'a vu aussi avec le Hamas. Quand, les attentats du 7 et 8 octobre en Israël, on ne croyait pas que les services de renseignement israéliens pouvaient être faillibles. Hein? Donc, c'était impossible, surtout des Juifs, on les mythifie, c'est des mythes antisémites aussi. Les Juifs seraient évidemment surpuissants, ils maîtrisent tous les codes, etc. Donc, on ne pouvait pas concevoir que les services secrets israéliens avaient pu échouer et ne pas anticiper cette attaque-là. On ne pouvait pas y croire, alors que finalement, même le Mossad, les gars peuvent virer une brosse, se réveiller le lendemain dans la base militaire, les gars sont en bobette, ils ont viré une brosse, puis oui, je veux dire, ça se peut, là, tu sais, on refuse de croire, parce qu'on prête au pouvoir une aura, puis justement un pouvoir qui est démesuré, finalement, alors que, comme je te dis, elle participe à des rassemblements politiques, regarde, même dans d'autres pays, et souvent tu te dis, regarde, quelqu'un aurait pu rentrer, quelqu'un aurait pu faire ci, aurait pu débarquer sur scène, c'est encore possible. Donc, mais je pense que dans le cas de Donald Trump, disons que j'en mettrais plus que moins là, d'agents. Là. C'est ça, c'est sûr.
Mais c'est ce que je me pose comme question. Là, ça fait deux fois qu'on veut le tuer. Là. Est-ce qu'on va augmenter sa garde?
Donc, ce serait le temps là, après deux fois.
Ouais. Mais le billet de proportion fourre bien du monde. Là. Puis dans ce cas-ci, là, je vois les extrêmes sur les réseaux sociaux. Moi, je vous lis. J'aime bien ça, vous lire d'un bord comme de l'autre. Mais parfois, les idées sont quasiment loufoques. T'sais. Les gens n'étaient pas capables d'accepter que les attentats du 11 septembre, on retourne en 2001, aient été faits par des gars qui se promenaient en gougoune.
Regarde, tu vois, c'est ça. Mais c'est ça l'histoire. L'histoire est faite quand même de gens, plus ou moins des kidams, des fois. Là,
attends un peu, là. Ils ont pris deux avions, ils ont détourné ça, puis ils ont rentré ça d'un tour. Puis là, les gars, c'était des gars qui se promènent en gogoun. Ben oui.
Mais c'était extrêmement organisé. Oui. Par contre, quand tu vas au 9-11, tu vois l'organisation incroyable qui est derrière ça, mais c'est pas...
Mais c'est le billet de proportion. Fait que là, les gens ont dit, ah, c'était sûrement de l'intérieur. C'était probablement des gens aux États-Unis qui ont fait le travail, qui voulaient...
Les tours qui tombent là, comme de la démolition.
Mais
là.
C'est le billet de proportion qui fourre bien du monde.
Mais dans le cas, sur les attentats, d'abord, ce que ça nous dit, c'est que la violence progressiste existe aussi. Tu sais, les grands médias nous ont habitués à penser que seule la droite peut être violente. Mais là, on a vu le deuxième tireur, là, deuxième terroriste, finalement. C'est quelqu'un qui tripait, qui appuyait très, très fortement l'Ukraine. Donc, il est très manichéen. Donc, pour lui, l'Ukraine, appuyer l'Ukraine, c'est le progrès. Être questionné, peut-être l'engagement américain en Ukraine, c'est le mal. Donc, il ne faut pas oublier que, oui, il peut y avoir des gens qui vont commettre des actes violents au nom de l'environnement, au nom de l'Ukraine, au nom de l'égalité, entre les hommes et les femmes. Donc, nous, on vit dans cette espèce de schéma-là où non, il y a juste la droite qui peut triper sur les guns, etc., prendre les armes, mais non.
Des deux côtés, ça peut se faire.
En fait, depuis la Révolution française, même, je te dirais, la violence politique à gauche ponctue l'histoire de manière très
forte. Parce qu'il se cache sous la vertu.
C'est ça.
Nous sommes vertueux, donc on a le droit de mettre des graffitis. Nous sommes vertueux, donc on a le droit de casser des fenêtres. Nous sommes vertueux, donc on a le droit de s'en prendre à des commerçants parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est sauver l'environnement.
Et éco-terrorisme, donc, ce qui serait plus légitime que d'autres formes de terrorisme. Mais regarde, tu vois, les commentaires par rapport à l'attentat, Trump l'aurait cherché, finalement. Tu sais, c'est... On écoute Radio-Canada et finalement, on n'est pas capable d'admettre que Trump puisse être quand même une victime, parce que forcément, il est quand même victime d'un deuxième attentat. Mais non, c'est Trump qui a alimenté la haine, donc c'est normal qu'il récolte à nouveau, en contrepartie, la haine. Hein? Donc,
Je pense pas que...
Ça a été sous-entendu quand même.
Je pense pas que n'importe qui veut la mort de quelqu'un. Là. Moi, je suis vraiment pas en accord avec beaucoup de politiques de Donald Trump. Je suis la première à dire que c'est un leader qui a divisé les États-Unis pour bien des points à un moment quand même assez précis, puis qu'il y a eu un certain marketing en arrière de ça. J'ai détesté tout ce qui s'est passé au Capitole, et oui, je crois qu'il aurait pu, en étant, s'il souhaitait être un leader positif, empêcher ce genre de situation et plutôt y aller avec des débats d'idées, des choses comme ça, au lieu d'insurrection. Puis de... Je pense qu'il y a tellement un pouvoir envers les gens qui lui donnent ce pouvoir-là, qui pouvait prendre d'autres dispositions. Mais de là à vouloir la mort de quelqu'un, moi, je n'y suis pas. Écoute, je n'y suis pas. Je suis plus dans des mesures coercitives politiques, peut-être.
T'as-tu vu l'article de Raphaël Jacob dans l'actualité?
Seulement le titre ce jour. J'ai pas encore cliqué dessus.
Pascal, jamais t'aurais pu écrire quelque chose du genre sur Kamala Harris, là.
Un fou qui inspire la foi. Ben, c'est parce que tout le monde a son profil.
Je suis d'accord que...
On voit Donald Trump ben, ben blanc, OK, sur un fond rouge. Ça doit vous rappeler quelque chose, la dictature. Le fou qui inspire la folie. Imagine-toi si on avait fait ça sur une femme noire qui aspire à la présidence américaine.
La folie, c'est un classique. Hein? Javier Milei, c'est le loco. Le fou. Poutine aussi, à un certain moment, on disait qu'il était fou ou qu'il avait le cancer. Donc, c'est un classique là, de la propagande. Moi, je pense que Donald Trump, oui, a jeté l'huile sur le feu dans diverses reprises. Le Capitole, je pense qu'il aurait dû dire à ces gens, là, bon, il a dit au débat qu'il avait pas incité les gens à rentrer, mais seulement manifester. Bon, c'est quelqu'un quand même qui, effectivement, a tout un pouvoir, une influence considérable sur ses fans. Là. Mais autre chose qui est intéressante d'observer, c'est que, bon, à chaque fois qu'il y a un crime haineux qui est commis, la gauche est toujours bonne pour dire « Ah, c'est la faute de la droite ». Bon, s'il y a question d'un attentat contre une communauté culturelle, ça va toujours être la faute, évidemment, de la droite qui a été critique du multiculturalisme, etc. Donc, quand il y a un groupe minoritaire, entre guillemets, qui est la cible d'attaque, c'est toujours la faute des commentateurs et... des politiciens de droite. Donc, c'est la faute de la radio poubelle, c'est la faute de Duhem, c'est la faute de Poilievre qui aurait eu un discours, ou la faute de Trump, alors que ça n'est jamais évidemment la faute des démocrates qui, quand même, sont aussi, eux aussi, dire c'est cette bonne guerre, sont hostiles envers Donald Trump. Là. Donc, les deux camps s'accusent mutuellement de vouloir faire tomber la démocratie. Ça, c'est intéressant aussi, quand même. Les deux camps sont persuadés, comme au Brésil, que le camp adverse va faire tomber la démocratie. Donc, c'est sûr, ce ne sont pas des accusations qui sont banales. Trump, il joue là-dedans. Les démocrates jouent là-dedans. Donc, ils ont répété que Trump allait abolir la démocratie aux États-Unis. Donc, il y a des gens qui se disent, ben là, moi, je veux soutenir la démocratie, donc je vais peut-être faire un attentat. Donc, c'est ça la logique. Donc, c'est arroseur arrosé, là, tu vois. Donc, moi, je pense que des deux camps, on devrait faire un effort pour dire, le débat existe et c'est pas parce qu'on se positionne à droite ou à gauche qu'on va être responsable par la bande de la violence qui peut être commise au nom des propos qui sont émis dans l'espace public. Je pense qu'il faut s'élever au-dessus de ça. Donc, le Trump ne s'est pas élevé au-dessus de ça. Il accuse le discours démocrate d'être en partie responsable du climat de haine envers lui. Ça peut être vrai de l'autre bord.
Exact. Il joue la game.
Mais il joue la game, mais c'est sûr, nous, comme commentateurs, élevons-nous au-dessus de ça, mais c'est ça. C'est vraiment arroseur arrosé. Donc, faut pas que la gauche s'étonne qu'on lui serve la médecine qu'elle sert elle-même à la droite. Là.
Exact.
C'est.
Hey, dernier sujet, Jérôme Blanchet-Gravel. Tu voulais nous parler d'un article de la presse qui parlait des Montréalais qui vont devoir renoncer aux appartements dans les sous-sols.
Hey, ça, c'est marrant. Donc, écoute, je me lève ce matin et j'apprends que c'est bientôt la fin des sous-sols à Montréal. Donc, au nom, effectivement, de la prévention des inondations, on va conseiller, on appelle les Montréalais à renoncer carrément au sous-sol. Donc, imaginez-vous donc, vous pensez que le sous-sol était quand même caractéristique même de la vie culturelle,
ouais,
au Québec.
Mais pourtant, il y a tellement d'appartements dans les sous-sols d'immeubles.
Dans une crise de logement extrême.
Dans une crise de logement.
Ça m'a surpris dans le contexte de la crise du logement, parce que c'est de combien de logements potentiels on va se priver en bannissant potentiellement les sous-sols à Montréal?
Normalement, tu fais un prorata, là, davantage des avantages, en disant, bon, OK, les assurances vont peut-être augmenter, il y aura peut-être un petit peu plus de sécurité publique à faire, parce que s'il y a des inondations, ou encore, je sais pas moi, n'importe quelle histoire que des rats à quelque part, parce qu'à Montréal, il y en a tout plein, comme à Québec. Tu dis, OK, mais il y en a plein qui vont se ramasser à la rue, donc c'est quoi notre solution? Où est-ce qu'on perd le moins?
Écoutez, vous êtes deux. Quand les changements climatiques servent de bouc émissaire à la médiocrité de la ville de Montréal, c'est-à-dire que on le sait, les infrastructures à Montréal sont désuètes. Récemment, vous l'avez vu, les aqueducs là, qui ont sauté dans le coin du pont. Et là, c'est pas la faute de la ville, c'est pas la faute de la mafia qui entretient les nids de poules à Montréal. C'est la faute des changements climatiques. Donc, c'est quand même extraordinaire. L'omni, la monovariable. La semaine passée, j'évoquais ce fameux article, cette étude où on disait que la chaleur affectait les résultats scolaires des élèves. Donc, vous voyez, à peu près la même logique. Donc, c'est pas parce qu'on ne sait plus enseigner le français que les élèves ne sont pas bons. C'est parce qu'à cause de la chaleur dans les classes, aujourd'hui, c'est pas parce que la ville de Montréal est médiocre et ne sait plus administrer que les aqueducs s'effondrent. C'est potentiellement à cause des changements climatiques qui vont transformer Montréal en prochaine Atlantide. C'est extraordinaire, ouais. Pareil. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est ces gens-là qui nous invitent, qui aimeraient criminaliser ce qu'ils appellent la désinformation. Tant qu'à moi, là, on est devant un cas de désinformation. Excusez-moi, mais dire que les inondations à Montréal sont causées uniquement par les réchauffements climatiques dans l'état des infrastructures, ouais, relève, tant qu'à moi, de la désinformation.
Écoute, quand il y avait eu le fameux geyser là, qui avait poussé à Montréal, là, il y avait des gens qui avaient été inondés. C'était une tragédie pour ces gens-là, puis on les comprend. J'avais été fouillé dans les archives de la presse, puis j'avais trouvé un article qui date de 2015, le 18 juin 2015, puis on parlait de la quantité d'eau que Montréal perdait chaque jour. C'est en millions de litres. On perdait à ce moment-là combien de litres par jour à Montréal? C'est en millions.
Seulement à cause des bris, là.
Par jour. En raison des fuites, oui.
Ouais.
Combien?
Non, mais écoutez, ça se voit.
Non, mais combien?
Combien de millions?
10 millions, 20 millions?
C'est un peu par jour, par mois?
Par jour. On perdait... Ça, c'est de l'eau traitée, de l'eau potable.
On va y aller pour un 20. Déjà, ça me fait peur.
20, c'est beaucoup?
Ça m'effraie, okay, là, juste d'avancer ça.
L'article est toujours disponible. Ça date du 18 juin 2015, sous la plume de Louis-Samuel Perron. C'est près de 500 millions de litres par jour qu'on perdait à Montréal. Ça, c'est l'équivalent de 200 piscines olympiques gaspillées par jour à Montréal.
Mais c'est délirant.
Mais non, mais c'est de la faute des changements climatiques.
C'est ça, regarde, tu vois. Mais tu vois, quand on dit les changements climatiques ont le dos large, oui, il y a des changements climatiques. Mais là, c'est comme je dis, c'est la monovariable. Tous les problèmes sociaux ne peuvent pas être lus à travers la lentille du réchauffement climatique. C'est quelque chose qui c'est pas scientifique, en fait, là, tout simplement. Donc, ça m'amuse beaucoup. Mais regarde, tu vois, la semaine passée, je m'amusais. Je disais qu'un jour, les gens allaient se passer de tondre leur gazon, ben, pour justement au nom de l'environnement. Tu vois, on nourrit la paresse. Hein, tu sais, finalement, ah, c'est pas de ma faute. C'est celle des changements climatiques. Moi, j'entretiens plus mon terrain parce que, bon, c'est pour les abeilles, par exemple.
Je parlais avec un jeune homme de 30 ans hier. J'étais avec Audrey, puis on a rencontré un jeune homme de 30 ans qui savait pas qu'est-ce qu'il allait faire dans 10 ans en raison des changements climatiques. C'est la première fois de ma vie que j'entendais quelqu'un me parler de ça.
Il y en a beaucoup. C'est vraiment lui, fidèle à cette génération-là. Là.
C'est lui, c'est anxiété. C'est vraiment de l'anxiété. Là.
Je trouve que c'est un prétexte.
Dans 10 ans, je ne sais pas ce qui va se passer parce que là, les changements climatiques, je me dis, mais tabarouette, attends un peu, là. Toi, tu n'es pas au jour le jour. Tu es déjà comme 10 ans plus loin là, que là, il va y avoir les des changements climatiques puis des inondations partout. Ça doit être triste à l'intérieur, là.
Mais moi, tu vois, je le vois comme un prétexte. C'est-à-dire, c'est tellement facile de dire, gars, moi, je n'aurai pas d'enfant, je veux pas de responsabilité. Pourquoi? Parce que j'ai peur du réchauffement climatique.
Je ne penserais pas que ce soit la majorité des
je
gens.
Je pense que ça a fait leur affaire d'une certaine façon.
D'une généralité aussi assumée, Jérôme?
Pardon?
C'est assumé comme généralité quand même?
Moi non, je pense que des gens, ça fait l'affaire de bien des jeunes d'aujourd'hui de dire, de se dédouaner complètement, de dire, gars, moi,
pourtant, moi, je suis entouré de personnes qui ne savent pas en tout, même rendu à 30 ans, puis ils ne se dédouanent pas, là, ils ne savent pas en tout. Là, puis même
pour les enfants
bas,
ou pour le réchauffement?
les enfants, ce qu'ils vont faire dans la vie, comment ils vont payer leurs factures.
Mais c'est plus l'anxiété, Pascal. Mais l'anxiété, il y avait 30 ans. C'est un adulte.
Moi, j'ai de la misère à concevoir qu'il y a des gens qui sont vraiment éco-anxieux. J'ai de la misère à croire que c'est un phénomène réel sur le plan psychologique. J'ai l'impression que c'est un discours.
C'est le même miroir que tous ceux qui vont commencer à s'informer en rafale sur un sujet bien précis. Que ce soit la politique, que ce soit une personne, un leader. On peut revenir à Donald Trump ou on peut parler de Joe Biden. Quand tu viens dans la roue, dans une chambre d'écho aussi, et que tu t'alimentes de tout ce qui est sur le web, parce que c'est ouvert, autant YouTube, des podcasts, des gens, à un moment donné, ça prend tellement de place dans ta vie que c'en est une obsession.
Ouais, la chambre d'écho, c'est un bon point.
Et là, ça peut t'amener dans une obsession. Par contre, c'est aussi on fait partie, du moins moi, c'est le début d'une génération où on a vu des différences au terme de température, au terme de montée des eaux, baisse des eaux, au terme d'alimentation. T'sais, on parlait avec Alison Van Rassel, une femme qui tripe cuisine, qui parlait justement de tout l'éco de poissons en train, qui est en train de changer parce qu'il y en a qui s'en vont plus bas dans les lacs parce qu'il fait plus chaud, fait qu'ils se font manger par de nouveaux prédateurs. Puis il y a de ces changements-là. Mais d'en être conscient et d'en être obsédé, c'est hein. deux choses différentes. Oui,
mais effectivement, je pense que, étant donné les niveaux de détresse au Québec en particulier, puis en Occident, les niveaux de détresse psychologique, j'aurais pas tendance à croire que oui, l'éco-anxiété existe chez un certain nombre de gens, mais je pense que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de notre génération de dire moi, je n'aurai pas d'enfant parce que j'ai peur des réchauffements climatiques que de dire moi, je veux pas d'enfant parce que je veux pas de responsabilité dans la vie. Je pense qu'on offre quand même des réponses à des gens qui seraient.
Mais sais-tu, moi, Jérôme, moi, je me suis déjà posé la question.
Là, vous allez dire,
Monde j'élèverais mes enfants? Plus que ça prend du temps avant que j'aie des enfants, puis à un moment, je sais pas si je vais en avoir. Parce que j'en aurai pas avec n'importe qui. Puis,
oui, j'espère.
Puis le jour où j'en aurai, il va falloir que j'aie quand même la décision de me dire, je vais en avoir pour moi, parce que si je me sépare, il va falloir que je m'occupe.
Tu entrevois déjà une rupture?
Ben, je pense qu'au moment où tu fais des enfants, il faut que tu saches que tu es capable de t'en occuper.
Elle n'est pas capable de les endurer
si jamais...
plus qu'un an.
Non, c'est faux, ça. J'étais en relation 8 ans et demi.
Quand même, mon Dieu.
Non, c'est Yannick aime ça niaiser, mais moi, oui, je suis une fille de famille, je suis une fille de couple, je suis une fille d'engagement, d'investissement, mais pas avec n'importe qui. Pour ça, ça peut me prendre du temps à tomber dans le mur et autres. La même chose pour les enfants, j'en ferai pas avec n'importe qui parce que je trouve que ça va être handicapant pour cet enfant-là. Puis si je me réveille, puis j'ai 38 avant d'avoir trouvé le père pour mes enfants, puis j'arrive pas à en avoir. Où je me dis à ce moment-là, non, je vais être trop vieille. Peu importe les raisons, c'est pas parce que je vais pas vouloir m'en occuper.
Non, mais je parle pas pour toi ou
je pense que ça reflète
pas.
Beaucoup de conscience. Puis tu sais, dans quel monde je vais laisser ces enfants-là, moi?
Mais même chose pour la COVID, c'est-à-dire, ce dont je parle, c'est-à-dire d'offrir des réponses toutes faites à des gens qui finalement ne veulent pas avouer finalement leurs véritables intentions durant la COVID, c'est-à-dire. Les gens qui restaient chez eux à rien faire sont devenus du jour au lendemain des héros. Ça faisait l'affaire de bien du monde. Puis, tu sais, au lieu de dire, moi, j'aime ça me pogner le cul chez nous toute la journée sur mon divan, c'était rendu des héros de la COVID.
Il y a une portion de ce type de gens-là, j'en conviens. Une généralité, non, mais une portion du genre le télétravail, j'étais m'attrapée parce que finalement, je suis moins observée, je peux faire plus mes trucs. Il y en a aussi de ça.
Je suis moins observée.
Il y en avait qui avaient hâte aussi de retourner au travail. Tu sais, t'as
oui,
de tout, mais.
Mais on nourrit.
Troisième guerre mondiale qui éclate, là.
Oui, mais gars, tu
vois... au Canada, on est impliqué, là. Je te fais pas d'enfant dans les prochaines années.
On a-tu notre prochain sujet?
On est pessimiste. En terminant, on est pessimiste parce qu'il y a moins de guerres qu'au 19e siècle. Il y a moins de guerres qu'avant. Il y a moins de famines qu'avant. Il y a moins de violence qu'avant. Ouais. Oui, il y a des défis énormes. Mais la vérité, c'est que les gens vivent plus en sécurité sur Terre qu'il y a 100 ans.
Les plus vieux.
Donc, alors, on s'inquiète plus parce qu'on est plus habitué à un certain degré de sécurité.
On est habitué à un certain
confort. On est bombardé par, justement, ces discours anxiogènes. Mais la vérité, c'est que le monde, d'une certaine façon, va mieux qu'avant.
Mais
c'est vrai.
Mais il ne faut pas faire du déni non plus.
Non,
on est dans le juste milieu.
L'Ukraine aussi m'inquiète, Israël, tout ça. Plein de choses qui m'inquiètent. Mais, je vous le dis, les chiffres le montrent, il y a moins de famine qu'avant. Il y a plus de gens qui mangent à leur faim dans le monde qu'il y a 100 ans.
On a trouvé notre sujet pour la semaine prochaine. Tu vas te faire brasser, Jérôme Blanchet-Gravel.
Non, on discute. Oh, ouais.
Pas de la lutte, toujours.
Ça, c'est Yannick.
Jérôme, on te suit sur Libre Média.
Yes, et sur mon compte X également.
Yes, un gros merci d'être passé. À la semaine prochaine, mon ami.
À bientôt.
418-971-1021, 418-971-1021, si vous avez quelque chose à nous dire. Vous êtes nos yeux, nos oreilles sur la route. Merci de le faire, soit dit en passant. Vous êtes de plus en plus. Green Day, on vous pousse ça dans les oreilles. Brain Stew. I'm having trouble.